Alors, se pencher sur le chamanisme, d'accord. À mon avis, il n'est pas vraiment possible de comprendre le chamanisme si on n'a pas une perspective historique. Il y a 500 ans, les Européens ont commencé à s'étendre à travers le monde et un peu partout où ils sont arrivés, ils sont tombés sur des individus qui prétendaient communiquer avec des esprits et d'être capables de guérir les gens ou de leur faire du tort, d'avoir une influence sur le temps, d'enchanter le gibier. Et ces différents praticiens avaient des noms différents selon la culture où ils se trouvaient. C'était des pagès, des angakuts, des arendiwanens ou des chamans selon qu'on se trouvait sur la côte du Brésil ou chez les Inuits ou chez les Sioux ou en Sibérie. Les Européens les appelaient les premiers observateurs européens au XVIe et XVIIe siècle les appelaient des jongleurs, des sorciers, des prestidigitateurs ou d'autres noms souvent péjoratifs. Par manque d'un mot approprié, on a importé le terme sibérien chaman dans les langues européennes. C'est arrivé d'abord par le russe, c'est passé à l'allemand et de là au français et à l'anglais. Cette importation d'un mot sibérien est due à l'économie du savoir au XVIIe et XVIIIe siècle. À cette époque-là, les tsars russes étaient les plus riches patrons de la science et engager la fine fleur de l'intelligentsia européenne dans leur entreprise d'étendre et de comprendre leur empire. Alors, par exemple, dans les années 1730, le professeur allemand de botanique et de chimie, Johann Gmelin, a passé une décade à explorer la Sibérie pour le compte de Pierre le Grand. Et il en a ramené la première description d'une séance d'un chaman Tungus et de ses assistants. Ces chamans battaient des tambours, chantaient, faisaient des tours de passe-passe et imitaient des bruits d'animaux dans l'obscurité. Ils prétendaient pouvoir guérir les gens ou au contraire leur faire du tort. Et pour Gmelin, tous ces agissements de ce chaman Tungus n'étaient que des supercheries qui méritaient des travaux forcés à perpétuité dans les mines. La première définition écrite d'un chaman a été donnée en 1765 par Denis Diderot et ses collègues dans leur encyclopédie. Pour Diderot et collègues, les chamans sont des imposteurs qui prétendent communiquer avec le diable pour guérir les gens et faire des tours de passe-passe qui semblent surnaturels à un peuple imbécile et superstitieux. Fermez les guillemets. Il faut dire qu'à ce moment-là, c'était déjà une grande ouverture d'esprit. De 1500 à 1700, le gros des observateurs européens de chamans étaient des prêtres et jugeaient que ces praticiens étaient surtout des ministres du diable. Et être taxé de ministre du diable entre 1500 et 1700, c'était pas cool. Parce que à ce moment-là, c'est là que l'Inquisition battait son plein. Ce n'était pas de 1300 à 1500, c'était de 1500 à 1700 en fait. C'est là qu'on brûlait des dizaines de milliers de personnes à travers l'Europe accusées de sorcellerie. Et l'Inquisition espagnole a aussi brûlé un certain nombre de chamans au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique centrale et du Sud. Alors, quand les premiers rationalistes sont arrivés et ont dit ce sont des imposteurs, c'était déjà une promotion, puisqu'on ne brûle pas les imposteurs jusqu'à nouvel avis. L'encyclopédie de Diderot et de ses collègues était la pierre angulaire du jeune projet rationaliste. Le rationalisme fait le pari que la réalité peut être comprise en la mesurant et en la définissant. C'était le travail de l'encyclopédie, c'était de définir tout ce qui existait. Le mot rationnel vient du latin ratio pour calcul. Et c'est devant les agissements hallucinés des chamans, les premiers observateurs rationnels ont senti le besoin de prendre de la distance et de marquer leur différence entre leur approche du savoir et cette sorte d'anti-savoir chamanique. C'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Alors, on voit dès le début que le mot « chaman » hors de son contexte sibérien est une étiquette transculturelle inventée par des Européens et appliquée à toutes sortes de praticiens de par le monde. Ok, alors c'est déjà un drôle de concept. Et vous allez voir que dans tout ce sujet, c'est rendu compliqué, mais en même temps fascinant par ce genre de difficultés. C'est comme si, lorsqu'on est un rationaliste et qu'on est confronté au chamanisme, on se retrouve à quelque part devant un miroir où on voit les limites de notre propre système de savoir et de nos propres concepts et de nos propres présupposés. Et si on ne les prend pas en considération, on n'a aucune chance d'entrer dans une véritable compréhension. On est condamné à utiliser les concepts que nous avons pour essayer de comprendre le monde, mais en l'occurrence, il s'agit d'une réalité que si on ne mène pas une autocritique en même temps de nos concepts, on n'a juste aucune chance de toucher le juste. Il a fallu attendre la naissance de l'anthropologie au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle pour que les observations des chamans s'affinent. C'est l'anthropologue Franz Boas qui a fait remarquer en 1900 que si un anthropologue veut comprendre une autre culture dans son altérité, il doit prendre en considération ses propres présupposés culturels, sinon il court le risque de les projeter sur son objet d'étude. Et d'ailleurs, on peut voir en regardant les textes écrits par des Européens sur des chamans de 1500 à 1900, vous avez surtout des couches et des couches de présupposés et très peu d'observations exactes à propos de ces praticiens. Boas a formé toute une génération d'anthropologues qui ont pris d'assaut le XXe siècle, on pourrait dire. Et alors, à partir de là, on a commencé à avoir toutes sortes d'informations sur ces praticiens de par la planète. Claude Lévi-Strauss a sans doute révolutionné la compréhension des chamans au XXe siècle lorsqu'il a écrit son article « L'efficacité symbolique » en 1949, où il a comparé, pour la première fois, les chamans à des psychanalystes. La différence entre ces deux praticiens, disait Lévi-Strauss, était que le chaman parle tandis que le psychanalyste écoute. À partir de là, il a été plus facile pour les occidentaux académiques de prendre les chamans au sérieux. Et au XXe siècle, on a des pointures anthropologiques comme Lévi-Strauss, Alfred Métraux, Gerardo Reichel Dolmatov. Tous ces grands anthropologues ont écrit à propos de chamans en dehors de la Sibérie et particulièrement en Amazonie. Donc, à travers les écritures des anthropologues au XXe siècle, qu'on le veuille ou non, on parle maintenant de chaman et de chamanisme en Amazonie, là où en fait les indigènes eux-mêmes n'utilisent pas ce mot. C'est Alfred Métraux qui a donner la définition la plus simple et utilisable, à mon avis, d'un chaman. Pour Metro, un chaman, qu'il soit sibérien ou australien ou amazonien, s'occupe de la guérison, de l'enchantement du gibier, de l'interprétation de signes, de l'influence sur le temps et de la divination. Et un chaman est tout individu qui, dans l'intérêt de la communauté, entretient par profession un commerce intermittent avec les esprits où on est possédé. Tout individu qui, dans l'intérêt de la communauté, entretient par profession un commerce intermittent avec les esprits.